Et toutes ces atteintes à la vie humaine, pour empêcher l'homme d'être contemplatif, de chercher la vérité, pour empêcher l'homme de vivre dans son innocence, dans sa limpidité, dans sa liberté profonde, pour empêcher l'homme de vivre tout court, pour empêcher l'homme de souffrir, de vieillir, pour empêcher l'homme de mourir, pour éviter qu'il meure d'une manière humaine en l'anesthésie, métapsychiquement, par l'accompagnement des mourants, par des techniques qui lui permettent de ne pas avoir une mort humaine, mais une mort anesthésiée, dans des états cataleptoïdos somnambuliques, et par des techniques d'Elisabeth Kübler-Ross et de Monroe. Bref, on retire à l'homme toute possibilité de vivre, sans compter bien sûr l'interdiction de vivre pour l'enfant. Et bien face à cette culture de mort, qui est la flagellation de l'Église, l'humiliation de l'Église, et le chemin de croix de l'Église, le règne du Sacré-Cœur donnera cette victoire à l'Église et permettra que le monde désormais respecte la vie, respecte le corps. Et découvre, grâce à cela, un monde nouveau où l'humanité découvrira l'existence de son corps spirituel et mettra en place dans ce corps de résurrection et vivra plus d'un point de vue du corps spirituel, c'est-à-dire du corps vivant de l'homme, uni à Dieu glorifié, que dans le corps psychique, dans le corps terrestre du monde ancien. Nous demandons dans ce mystère la destruction totale du monde ancien et l'apparition du monde nouveau. Vous voyez que quand on fait des actes d'espérance, avant de le faire, il faut savoir que ce n'est pas nous qui les faisons, c'est l'Église, c'est le corps mystique de toute l'Église qui le fait à travers notre corps. Et c'est pour ça que c'est une petite conseil que je vous donne, quoi. C'est qu'avant de dire « j'espère » avec vos lèvres, eh bien avant, il faut que nous intégrions... Vous savez comment j'explique quelquefois aux enfants, bon, vous ouvrez les écluses du haut, comme Goldorak, vous savez, ouverture, et vous faites rentrer par cet entonnoir extraordinaire tous l'église glorieuse du ciel, tous ceux qui sont au ciel, vous les faites rentrer en vous, dans votre corps, écluse du bas. Aspiration des âmes du purgatoire. Écluse du côté, blessure du côté, tous ceux qui sont en état de grâce sur l'orbe de la terre. Écluse du côté de miséricorde, tous ceux qui sont de bonne volonté, tous ceux qui sont restent humains, quoi. Écluse de l'Immaculée Conception pour rassembler en vous, dans votre corps, dans l'unité, tous ces gens-là. Écluse de la gloire du Christ, pour les emporter dans le sein du Père, et une fois que vous êtes là, ça y est, ils sont tous là, à ce moment-là, c'est pas vous tout seul, vous comprenez? C'est nous tous, et l'Immaculée Conception en nous, et le Verbe qui dit au Père, j'espère, avec une ferme confiance, qu'en ce moment tu me donnes la grâce, tu nous donnes la grâce, toutes les grâces, et le bonheur éternel, dès cette terre. Hein? Je vous rappelle, hein, toujours, se rappeler que nous sommes catholiques, nous sommes apostoliques, nous sommes un. Hein? C'est dommage si ça reste une théorie, il faut le vivre, ça. Hein? Voilà, on va continuer notre méditation sur l'espérance. Il s'agit de lancer plus exactement. Oui, on m'a dit, mais le pape, qu'est-ce que vous... On me posait la question, mais le pape, où est-ce qu'il dit ça, que l'an 2000, etc. Bon, je vous lis. Jean-Paul II, 28 février 1997. Moi, je pourrais vous en trouver, je n'ai pas amené tous les textes du pape, mais j'en avais un là, je ne savais pas que je l'avais, je tombais dessus. Je ne vais pas vous mettre le ton, quoi, mais enfin. Le défi, c'est à propos, vous savez, de son encyclique sur le troisième millénaire, Tertio Millennio Adveniente. On lui demande qu'on se prépare pendant 3 ans. Alors, il dit, le 28 février 1997, à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical, à propos de ce texte de Tertio Millennio Adventi, le défi consiste à s'assurer que le monde soit correctement informé de la signification de l'an 2000. Donc il demande à l'Assemblée plénière du Conseil pontifical que tous les médias catholiques et du monde soient pleinement informés de ceci, deux points. Le jubilé de l'an 2000, sous-entendu, ne peut être la célébration d'un événement passé, c'est pas simplement un anniversaire. Le jubilé ne peut pas être la célébration d'un événement passé, aussi extraordinaire soit-il. Il doit être la célébration d'une présence vivante, une invitation à se tourner vers la deuxième venue de notre Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il établira une fois pour toutes son royaume de justice, d'amour et de paix. On ne peut pas être plus clair. Puisse Marie, qui, il y a 2000 ans, offrit au monde le Verbe incarné, c'était la première venue, guider les hommes et les femmes des communications, des médias, vers celui qui est la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Le deuxième avant, oui. Alors vous pouvez dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de deuxième avant? Ben, je sais pas, je comprends pas. Je croyais que à un moment donné, d'un seul coup, le Christ revient dans la gloire, quand personne ne s'y attend, et c'est le jugement des vivants et des morts, et tout se passe en même temps. Il y a des gens qui disent ça. Le reste, c'est de la poésie, tout ça. Mais non, c'est pas tout à fait exact. Il faut vraiment ne pas connaître son catéchisme. Pour dire ça. Et il y a d'abord une venue, il y a d'abord la parousie, elle vient d'abord. La parousie, c'est pas du tout le jugement dernier, hein. Le retour définitif du Christ. Et le jugement des vivants et des morts, après avoir ressuscité tous les corps. Ça, c'est tout à fait, ça on sait pas, mais il y a une venue, si je puis dire, une visitation intermédiaire qu'on appelle la parousie, quoi. Voilà, c'est simple. Voilà. Si vous voulez des textes officiels de l'Église, Monseigneur Grégory a sorti un livre récemment, et vous verrez qu'il y a pas mal des interprétations de Saint-Augustin, de Timothée, Thessalonicien, enfin, tous les textes de l'Écriture, quoi. Et de la doctrine qui dit ça. Enfin, pas tous, quelques-uns, parce qu'il y en a bien d'autres, hein, c'est la venue intermédiaire de Jésus, Monseigneur Grégory. Il est pas difficile à lire, il est chouette. Il est pas terrible, hein, mais enfin, il y a des petits passages. C'est pas terrible, non, c'est vrai. Mais il y a des passages quand même qui nous permettent, qui nous. Il y a mieux, hein. Moi, personnellement, j'aurais pas écrit comme ça, mais enfin bon. Mais c'est bien, il y a des bons trucs. Oui. Et vous connaissez aussi ce que dit Monseigneur Grégory ici. il révèle un truc de Sœur Lucie de Fatima, parce que Lucie de Fatima a reçu très très peu de pontifs, hein, de monsignors, très très peu. Ils comptent sur les doigts de la main, je crois 3 ou 4. Luciani, qui n'était pas encore pape, ben, effectivement elle l'a reçu. Ça a été très rare. Mais enfin voilà ce que Monseigneur de Gory dit. Ce que la Vierge lui a dit et qu'elle a noté en octobre 1988. Vous voulez que je vous le dise? Ça n'est pas la doctrine, là. Hein. Attention, hein. C'est Lucie de Fatima. C'est tout. Il y a 10 ans. Voici ce que la Vierge m'a dit. Tu m'as souvent demandé, ma fille, quand Jésus reviendra-t-il du ciel sur la terre? Cette même demande avait été faite à Jésus un jour par ses disciples eux-mêmes. Et Jésus leur répondit que ni les anges, ni les prophètes, ni lui-même ne peuvent préciser ce jour réservé seulement à la volonté du Père. Voilà. Comme ça, c'est clair. Puis, tu as voulu savoir si les prophéties anciennes et récentes qui annoncent une prochaine venue de Jésus dans le monde s'accompliraient au cours de ce siècle, 20e siècle. Eh bien, sache que mon fils reviendra sur la terre quand tu te l'imagineras le moins. Voilà, donc c'est clair. Jésus lui-même, avec ses yeux aimables et doux, dit un jour, quand je descendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi en moi? Par ces mots que je conserve moi aussi dans mon cœur, c'est beau que Marie dise ça, il annonçait son retour sur la terre. Et non seulement des saints et des voyants ont prédit cette venue de mon fils, mais moi aussi j'ai répété à des âmes qui me sont chères les paroles suivantes: priez, faites pénitence, purifiez vos âmes, parce qu'il est imminent le jour où Jésus apparaîtra soudain sur la terre. C'est vrai, depuis des générations et des générations, à chaque apparition, c'est imminent, c'est imminent. Saint-Vincent Ferrier, des choses extraordinaires, c'est imminent. Même pour prouver que c'était vraiment imminent, que c'était maintenant, quoi, qu'il fallait, c'était nous, il a ressuscité des morts pour prouver que ce qu'il disait était vrai. C'est fou, quoi. Et Dieu a permis que les morts ressuscitent pour prouver que ce qu'il disait était vrai. Et puis, allez, 5 siècles après. Alors. C'est pour ça que si. Hein? Artum cacahuète. Donc, ça veut dire que c'est vrai ce qu'il dit, mais il faut le comprendre. Oui. Il faut balayer devant notre porte tous les mysticodingos, hein. Oui, ma fille, son retour est imminent. Entre sa première venue, donc à Noël, il y a 2000 ans, chantée par les anges à Bethléem et annoncée aux bergers, et la dernière venue à la fin du monde, cette venue intermédiaire, certaine, soudaine, imminente, est établie dans les plans de Dieu. Jésus apparaîtra et descendra du ciel d'abord avec sa miséricorde et ensuite avec sa justice. Il descendra et dans peu de temps pour lancer le dernier appel de sa miséricorde, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Ah non, ça ne veut pas dire qu'il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Dernier appel, il y aura les appels de la justice après, donc ce ne sera pas fini. Le dernier appel de sa miséricorde à tant de mes enfants qui n'ont pas donné foi à mes nombreux messages et avertissements. Il descendra pour arracher aux malins de nombreuses légions d'âmes emportées par la tromperie et l'incrédulité pour la perdition éternelle. Il apparaîtra surtout pour confirmer dans la foi tous ceux qui croient et espèrent en lui, en résistant avec force à la masse des incrédules. Et c'est cette légion d'âmes bonnes et vertueuses qui l'attire à donner cette grâce et l'invite à descendre du ciel. C'est pour cette légion d'âmes que semble sortir de ses lèvres la même expression qu'il utilisa un jour pour la foule qui l'entourait. J'éprouve de la compassion pour cette foule et je ne peux pas la renvoyer à jeun. Mais il apparaîtra surtout pour tant de mes enfants qui vacillent dans la foi, comme les deux disciples d'Emmaüs qui abandonnèrent le cénacle au matin de la première Pâque et qu'il rejoignit comme un pèlerin inconnu sur la route poussiéreuse en les confirmant de nouveau dans la foi des divines écritures, et comme à l'apôtre Thomas qui refusa de croire en ses premières apparitions à Pierre, à Jean et à Marie-Madeleine, et auquel il apparut aussi. Ce signe est très mystérieux qu'on ne peut pas décrire pour l'instant, qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui encore. Ce sera une très grande grâce du bon Dieu pour nous. D'une façon particulière, il reviendra pour la confusion des athées. Donc tout l'athéisme qui est en nous sera dans une confusion invraisemblable. Des impénitents, tout ce qui est impénitent en nous sera dans une confusion invraisemblable. Qui seront foudroyés par sa lumière. Tout ce qui est vieil homme en nous, ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, nos opinions, sera dans une confusion invraisemblable, écrasée. Foudroyé par sa lumière, comme Paul, Saul, renversé de son cheval et précipité dans la poussière sous les murs de Damas. C'est ça ce qu'on appelle quelquefois l'avertissement, c'est la trompette, quoi. Le signe que tous verront de l'Orient à l'Occident. C'est pas le retour du Christ. C'est une visitation dont le pape parle là, ici, là. Je viens de vous lire le texte du pape. Il parle bien, devenu intermédiaire. Il apparaîtra pour convertir ceux qui ne croient pas à la divinité en la manifestant dans toute sa splendeur. Donc si c'est manifesté dans toute sa splendeur, ça veut dire que c'est une manifestation de l'intérieur. La manifestation de la divinité, ça ne peut pas être de l'extérieur. C'est pour ça que tous, comprenez. Comme aux trois disciples sur le Tabor avec sa transfiguration. Ah, c'est lié à la transfiguration. Ah oui, c'est vrai, c'est une croix glorieuse. Donc c'est lié au mystère du prophète Élie, au mystère des limbes. C'est tout intérieur, c'est ce Christ silencieux qui va apparaître à nos yeux, du fond de notre âme, lumineusement à notre conscience. Alors que le démon pensait qu'il avait réussi à l'étouffer. C'est notre cri d'espérance qui va tout prendre en nous, par une grâce venant de Dieu, qui nous établira dans l'espérance vraiment, quoi. Et du coup, dans une pauvreté, mais alors, radicale. Toutes nos sécurités, alors là, sont écrasées. Nos fausses sécurités, nos mécanismes de défense. Exhorte donc le monde. Et par conséquent, exhorte donc le monde à sortir du tunnel de l'incrédulité et du labyrinthe du mal, à chanter le credo des siècles chrétiens, à abandonner l'habitude du péché, parce que chaque relation avec la faute est un rejet de cette lumière et un refus de cette grâce. Exhorte donc tous les hommes à intensifier leurs prières, pour accueillir mon Fils, comme l'accueillirent un jour les habitants de Jérusalem avec des palmes et des branches d'olivier en criant « Hosanna, sauve-nous, je t'en supplie !» Un cri qui ne s'éteindra jamais plus à partir de ce jour-là, jusque dans les siècles. Sauve-nous, je t'en supplie. C'est ça, l'Église du monde nouveau. Je t'embrasse et je te bénis. À bientôt, ma fille. Moi aussi, ma maman, je te bénis, je t'embrasse. Je te fais un gros baiser.